Vous écoutez
RMC.
Lundi 6 juillet.
L'info sur RMC.
Il est 6h juste. Merci d'être là avec nous. C'est Céline Kallmann qui est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Visite surprise de Jean Castex hier soir dans un commissariat de la Courneuve, près de Paris. Soutien affiché du nouveau Premier ministre aux forces de l'ordre. On connaîtra aujourd'hui les visages du nouveau gouvernement. Mélanie Lemay avait 25 ans. Gendarme, elle a perdu la vie samedi soir près d'Agen, fauchée par un automobiliste qui a voulu éviter un contrôle. Il est en garde à vue. Et puis c'est le grand jour pour le Louvre. Le musée va de nouveau accueillir des visiteurs. Il faut réserver et porter un masque. Bienvenue à tous sur RMC. Une visite surprise et symbolique. Hier soir, après avoir dîné avec Emmanuel Macron, Jean Castex s'est donc rendu dans un commissariat de la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Le nouveau Premier ministre a exprimé son soutien aux forces de l'ordre. Marion Fournet.
Les questions de sécurité publique sont parmi mes toutes premières préoccupations. Devant la quinzaine de policiers présents, Jean Castex s'est voulu rassurant et à l'écoute. Je sais que vous attendez de nous des actes, ils viendront. Vous attendez de nous de la reconnaissance et du soutien. Ils seront sans faille, a indiqué le Premier ministre. Mehdi Afsi, l'un des adjoints au maire de la Courneuve, a assisté à la visite de Jean Castex.
Moi, je l'ai trouvé quelqu'un de serein, quelqu'un de rassurant. Nous, ce qu'on attend, c'est des engagements, des moyens vraiment visibles rapidement sur notre collectivité, sur notre ville. Est-ce que ça va être des engagements qui seront concrétisés ou pas? On verra avec le temps.
Des engagements et des mesures particulièrement attendues dans ce département actuellement au cœur d'un scandale. C'est là que la compagnie de sécurisation et d'intervention de la police a été dissoute après la mise en examen de 4 agents pour faux et usage de faux notamment. Et puis il y a cette phrase qui n'est pas passée inaperçue concernant le sort de Christophe Castaner, place Beauvau. J'aurai l'occasion de me déplacer plus tard avec le ministre de l'Intérieur qui sera nommé sur ma proposition.
Emmanuel Macron souhaite un gouvernement de mission et de rassemblement. Hier soir, le chef de l'État a publié une série de tweets où il assure ne vouloir laisser personne au bord du chemin. Il affirme aussi vouloir s'adapter aux bouleversements internationaux et aux crises. Paul Barcelone, sur la nouvelle photo de famille, il y aura une vingtaine de ministres et ministres délégués. Des secrétaires d'État seront annoncés plus tard.
Un gouvernement de mission et de rassemblement avec une vingtaine de ministres et ministres délégués. Il y aura de nouveaux talents, des personnalités venues d'horizons différents, assure l'entourage d'Emmanuel Macron, qui confirme que les secrétaires d'État seront annoncés plus tard. Parmi les poids lourds du précédent gouvernement, certains sont quasi assurés de rester. Bruno Le Maire à l'économie, son collègue à Bercy, Gérald Darmanin, ou encore Olivier Véran à la santé. Mais ce remaniement reste une équation politique à plusieurs inconnues pour Emmanuel Macron et Jean Castex. L'enjeu est notamment de maintenir la parité homme-femme alors que plusieurs femmes sont données partantes comme Muriel Pénicaud et Nicole Belloubet. Mais il s'agit aussi de satisfaire les alliés de la majorité comme le Modem. Emmanuel Macron dévoilera la feuille de route du nouveau gouvernement lors d'une prise de parole le 14 juillet.
Jean Castex recevra ce soir les députés et sénateurs de la majorité à Matignon. Notez que le vice-président Les Républicains, le député Guillaume Pelletier, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30 sur RMC et BFM TV. Sur la feuille de route du nouveau Premier ministre, le dossier des retraites qu'il veut régler à court terme. Philippe Martinez, le patron de la CGT, a affirmé hier que tous les syndicats étaient d'accord pour dire que la réforme n'était pas un sujet prioritaire. Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, réagira ce matin sur RMC. C'est à 7h40. Une administration de la santé complètement dépassée, des préfets relégués au second plan, un numéro d'urgence saturé. Dans un rapport qui n'a pas été finalisé mais qui a fuité dans la presse, la Fédération des pompiers trie la gestion de l'épidémie de coronavirus par le ministère de la Santé et ses agences. Margot Bédé.
Un règlement de compte en public. Voilà comment Éric Revu, chef du service des urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris, perçoit ce rapport.
C'est un sentiment de frustration des pompiers d'avoir l'impression de ne pas avoir été impliqués dans le dispositif. C'est complètement polémique et inutile en plus.
Des failles sont pourtant pointées par ce rapport. Le 15, par exemple, comme numéro unique de santé, Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, en a fait les frais.
Pour tout renseignement, il fallait appeler le 15. Notre standard a explosé parce que rien n'avait été prévu. Les délais de décrochage était de plus de 30 minutes. Si vous appelez pour un infarctus, pour un arrêt cardiaque, ça s'appelle une perte de chance, et une perte de chance, c'est de la surmortalité. Maintenant, il faut écouter les personnes de terrain.
Et c'est justement ce que demande Grégory Allion, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, avec davantage de coordination.
Peut-être que cela aurait fonctionné beaucoup mieux en mettant tout le monde à la main de nos préfets, à la main de nos maires, pour faire en sorte que la crise soit répondue de la meilleure manière et de manière pratique, mais en plus de proximité territoriale.
Le rapport propose notamment la création d'un ministère ou d'un secrétariat d'État chargé de la gestion des crises et des situations d'urgence.
Le Covid-19 qui continue de se répandre, plus de 39 000 nouveaux cas en 24 heures aux États-Unis. Le Chili lui a franchi le seuil des 10 000 morts. Des chercheurs alertent ce matin à l'Organisation mondiale de la santé sur la manière dont le virus se transmet. Selon les travaux de centaines de scientifiques de 32 pays différents, le coronavirus se transmet aussi par de minuscules gouttelettes qui peuvent traverser une pièce et donc infecter plusieurs personnes. RMC 6h05, elle s'appelait Mélanie Lemay, avait 25 ans, était gendarme et judokate. Samedi soir, la jeune femme originaire de l'Orne en Normandie a été heurtée par un conducteur qui a refusé d'obtempérer. Ça s'est passé vers Agen, elle n'a pas survécu. Le chauffard est lui depuis en garde à vue, Gladys Lafitte.
À 27 ans, le conducteur est déjà connu des services de police et de gendarmerie pour des délits routiers, notamment une suspension de permis et des délits liés aux stupéfiants, explique une source proche du dossier. Samedi soir à 20h50, il refuse de s'arrêter à un premier contrôle routier. En fuyant, il tombe sur un deuxième barrage tenu par des policiers, fait demi-tour. Les forces de l'ordre sont alors en alerte. Un dispositif d'interception est mis en place à Port-Sainte-Marie. C'est là que sont postés Mélanie Lemay et ses collègues. Le conducteur refuse une troisième fois donc de s'arrêter. Il fait un écart pour éviter une herse au sol. Il heurte alors violemment la gendarme. Un choc si violent que la jeune femme décède sur place. Placé en garde à vue, l'homme est effondré, selon une source proche de l'enquête.
Hier soir, un gendarme a été blessé. Là aussi, un conducteur a refusé de s'arrêter. Ça s'est passé à un barrage routier à Gouzeaucourt, dans le nord, à l'est d'Amiens. Il a roulé sur le pied du militaire en prenant la fuite. Deux semaines après Bastia, c'est à Ajaccio cette fois que des centaines de personnes, principalement des femmes, ont manifesté contre les agressions sexuelles et les violences. Le mouvement I Was, j'avais en français, a pris une ampleur considérable dans l'île. Nous y reviendrons dans un reportage à 7h sur RMC. Le musée du Louvre, comme vous ne l'avez sans doute jamais vu. Ça y est, il rouvre aujourd'hui après plus de trois mois de fermeture due au Covid-19. Règles sanitaires obligent, la fréquentation va être limitée à 30% de l'affluence habituelle. Le masque sera obligatoire. Benjamin Pelsi.
Contempler le radeau de la Méduse est de nouveau possible. 70% des galeries du musée retrouvent le public. Leïla Sharif Adria est chargée de la surveillance et de la sécurité du Louvre.
On s'est concentré effectivement sur les espaces les plus appréciés et avec une attention particulière pour le public familial, avec les antiquités égyptiennes qui, elles, seront ouvertes en intégralité sur toute la période.
Pour admirer les sphinx ou les sarcophages, il faudra suivre un sens de visite strict et l'achat des billets s'adapte lui aussi au coronavirus.
La réservation est obligatoire. Il est fortement conseillé de la prendre en ligne, même s'il reste la possibilité de la prendre sur place, mais c'est uniquement si des créneaux sont toujours disponibles.
En temps normal, 8 visiteurs sur 10 sont d'origine étrangère. Cet été, il devrait être bien plus rare. Jean-Luc Martinez, le directeur du musée, est donc confiant quant à l'application des distances de sécurité.
Le musée est très grand, donc il n'y a aucun problème ici pour respecter les distances. Ce n'est pas le lieu où on va être écrasé les uns sur les autres. Donc ça signifie en effet que c'est le moment de venir.
Les visiteurs devront porter un masque et devant la Joconde, des emplacements sont délimités pour encadrer le traditionnel selfie.
Il faut réserver pour aller au Louvre. Il y a déjà plus de place aujourd'hui, j'ai regardé ce matin.
Bien, Céline, on vous retrouve tout à l'heure à 7h. On va revenir sur le décès de Mélanie, cette jeune femme de 25 ans, gendarme, qui est morte fauchée par un conducteur qui a voulu forcer un contrôle à Port-Sainte-Marie dans le Lot-et-Garonne, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Agen. Elle était âgée de 25 ans, je vous l'ai dit, Mélanie Lemay, originaire de la Ferté-Massé dans l'Orne, judokate de très haut niveau, puisqu'elle avait représenté la France au championnat du monde militaire. Elle était gendarme depuis 2016 dans la caserne d'Aiguillon, dans le Lot-et-Garonne, à Aiguillon, commune dans laquelle se situe donc la caserne de Mélanie Lemay. Les habitants lui ont rendu hommage hier. Le reportage de Florian Chevalet.
Une dizaine de roses déposées sur le portail de la caserne par des habitants émus aux larmes venus rendre hommage à la gendarme.
C'était une fille adorable qui aimait son métier. Elle avait un grand cœur.
Je suis effondrée, je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre. Voilà, on espère tous que justice sera faite.
Hier, dans la commune, les drapeaux ont été mis en berne. Christian Girardi, le maire de la ville.
Mais nous sommes très peinés de voir des gens en service qui défendent la paix sociale, sauvagement assassinée hier, il n'y a pas d'autre mot. Il a été heurté de plein fouet, dans des conditions, c'est atroce.
Originaire de Normandie, avant de devenir gendarme, la jeune femme était judokate. Elle rejoint à l'âge de 10 ans l'AJ61, le club de judo de la Ferté-Massé dans l'Orne. Tony Rouxel en est le président.
On a été complètement groggy par le choc, c'est les pleurs, c'est les cris, on a... On a même du mal à réaliser que Mélanie n'est plus là.
Championne de France militaire en 2016, sélectionnée pour les mondiaux la même année, Mélanie était une force de la nature, selon Fabrice Guillet, sélectionneur de l'équipe de France de judo militaire.
100 kilos, 1m80, 85, tout en muscle, l'athlète. C'est une fille qui avait la joie de vivre. Faire quelques plaisanteries, taquineries. Principalement, une fille qui avait toujours la bonne humeur, en permanence.
L'entraîneur se souvient que Mélanie lui envoyait une carte postale à chacun de ses déplacements.
Thierry veut réagir. Thierry est à Montpellier dans l'Hérault. Bonjour Thierry.
Et bonjour, je cours vite, je sors de mon entrepôt.
Bon, allez, vous sortez de l'entrepôt là.
Ouais, voilà, ça va résonner autrement. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Thierry.
Bonjour à toute l'équipe.
Et merci d'être avec nous ce matin. Bien, vous vouliez parler des délits de fuite.
Oui, alors, sortie du confinement. Vous aviez fait un débat sur la circulation, sur...
Oui.
Sur les gens qui faisaient tout et n'importe quoi maintenant au volant.
Oui.
Moi, j'ai l'impression que ces délits de fuite, on en parlait avant, il y en avait, c'est pas un problème avant le confinement. Mais maintenant, j'ai l'impression que ça se banalise. Ça se banalise, ça devient grave, quoi. Les gens, pour éviter un dépistage alcoolémie ou de drogue, ils se barrent, quoi. Et que ça soit des jeunes, des anciens, des... Ils s'en vont et au risque de tuer quelqu'un, cette pauvre gendarme dans l'exercice de ses fonctions. Elle n'a pas le droit de mourir parce qu'elle est en train de faire des contrôles. Elle n'a pas le droit. Mmh. On n'a pas le droit de la tuer. Mmh. On n'a pas le droit. Mmh. Voilà. Donc moi, je suis sidéré. Je suis sidéré. Ça en devient banal. À Montpellier, il est arrivé un truc. Un motard, un couple de motards, donc sur la même moto. Au rond-point du Grand M, comme on appelle ça, quelqu'un les a fauchés, ils sont tombés par terre, ils sont vivants, hein. Là n'est pas le problème, ils n'ont pas pu se relever tout de suite, mais le gars il s'est barré, quoi. Et il y a eu du civisme envers les gens qui l'ont coincé parce que le gars il se barrait, quoi.
Mais bien sûr, bien sûr.
C'est le civisme des gens a fait que ils ont arrêté, ils ont poursuivi le conducteur, ils l'ont arrêté. Le gars était alcoolisé, quoi. Donc c'est quand même malheureux, dramatique. On peut plus faire n'importe quoi. Moi je dis que c'est, enfin j'allais dire un gros mot, j'allais dire dégueulasse. Je le dis quand même. C'est dégueulasse que cette fille soit
décédée
dans l'exercice.
Mais c'est pas un gros mot. Ça résume tout ce que vous pensez. Merci Thierry. Merci beaucoup.
Je peux ajouter quelque chose, Jean-Jacques ?
Allez-y, Thierry.
19 ans que je suis avec vous sur l'antenne de RMC.
19 ans ?
Ben, depuis
c'est vrai.
Que vous avez... 19 ans. Je suis tombé sur votre émission il y a 19 ans.
Bon. Hein,
quand
bon.
Vous avez attaqué. Et je peux vous dire une chose, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec vous, vous avez révolutionné l'antenne. Et quand je dis révolutionné, c'est révolutionné. Par contre, vous allez me manquer.
Bien. Bah merci Thierry, je sens que ça venait du fond du cœur. Hein,
exactement.
Thierry. Bah ça me fait plaisir. Vous me manquerez aussi, vous les auditeurs, évidemment. Bien, merci Thierry, merci beaucoup. Hein, merci. On reparle de la crise du coronavirus. La crise du coronavirus risque-t-elle de repartir en France? Dans tous les cas, certains médecins commencent à s'inquiéter, et nous en parlerons tout à l'heure à 8h10. Il y a par exemple, des retours de malades en provenance d'Algérie. L'Algérie qui est confrontée à une deuxième vague du virus, Quentin Vinet.
L'Algérie qui s'approche ce matin des 1000 morts, un peu plus de 950, pays le plus touché au Maghreb, et les épidémiologistes en France alertent parce que depuis le 29 juin, depuis une semaine, une vingtaine de malades ont été hospitalisés à Paris, à Lyon, à Marseille, à Grenoble ou encore à Reims. Ces malades ont un point commun à chaque fois. Ils revenaient tous d'Algérie. C'est écrit dans le journal Libération. 3 sont en réanimation. L'un d'entre eux est mort. Ils étaient forcément malades avant de quitter le sol algérien, avant de monter dans l'avion où la seule consigne, la seule règle, c'est le port du masque. C'est ce que dit un médecin. Les voyages entre les deux pays, il faut le rappeler, ne sont pas interdits. Alors avant d'être hospitalisés, ils ont eu le temps de contaminer pas mal de monde, notamment leur famille, c'est ce que dit un infectiologue, pour qui on est en train de reproduire en fait les erreurs du début de la crise avec les voyageurs chinois. Plusieurs médecins ne comprennent pas d'ailleurs l'apathie des autorités. Le Covid, c'est vraiment l'épidémie de la pénurie et de la bêtise, dit l'un d'entre eux.
Bien, il y a un endroit de France où on s'inquiète vraiment face au coronavirus, c'est la Guyane. Nous sommes en direct de Guyane ce matin avec le docteur Loïc Épelboin, qui est médecin infectiologue au centre hospitalier de Cayenne. Docteur Épelboin, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Bourdin.
Merci vraiment d'être avec nous ce matin. Quelle est la situation en Guyane ?
La situation en Guyane, c'est celle d'une épidémie qui est en augmentation. Là, on a quasiment dépassé les 5000 cas pour une population d'à peu près 300 000 habitants. Entre 150 et un peu plus de 300 nouveaux cas chaque jour, un petit peu partout sur le territoire, mais en particulier sur Cayenne et ses alentours.
Oui, Cayenne et ses alentours. Est-ce que vous êtes équipé, vous, personnel soignant, est-ce que vous êtes équipé pour faire face à cette épidémie?
Oui, on est équipé. On a, en règle générale, ce qu'il faut. Alors, on n'est pas à l'abri de temps en temps de rupture parce que forcément, on est loin de la métropole. On dépend des avions qui arrivent de Paris. Le nombre de vols a été extrêmement réduit en provenance de métropole. Donc, parfois, il y a effectivement des ruptures d'équipement. Mais normalement, on a ce qu'il faut. Même si de temps en temps, une petite crainte sur les masques oxygène, les gants, parfois sur les équipements de protection. Mais normalement, il y a ce qu'il faut.
Des soignants ont été envoyés en renfort de métropole. Vous les avez vus arriver?
Oui, tout à fait, on les a vus arriver. Ils arrivent depuis quelques temps. Vous savez, on a à la fois Cayenne où se concentre actuellement l'épidémie. Il y a quelques semaines, c'était à la frontière brésilienne, à Saint-Georges-de-l'Oyapock, où ça a commencé. Et là, il y a les équipes, notamment de la réserve sanitaire, qui sont arrivées. Beaucoup d'infirmiers, des médecins pour faire du dépistage massif sur cette commune-là. Maintenant, on sait qu'il y a, par différents biais, que ce soit à Cayenne ou dans d'autres communes, notamment dans l'ouest guyanais, à Saint-Laurent-du-Maroni, où il y a des équipes qui arrivent régulièrement de médecins et de paramédicaux.
Est-ce que vous voyez de plus en plus de cas graves, docteur?
Oui, tout à fait. Là, ça fait à peu près 3-4 semaines qu'on a vu commencer à arriver les cas graves. Ils sont principalement concentrés sur l'île de Cayenne, forcément vu que c'est là où on a le plus grand nombre de personnes qui sont atteintes, mais ils arrivent aussi d'autres endroits. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est surtout sur l'hôpital de Cayenne où on en voit un certain nombre arriver, 10-15 par jour. Un certain nombre vont en salle d'hospitalisation. On a dû démultiplier les lits d'accueil. Et puis, il y en a un certain nombre qui doivent passer en réanimation, qui doivent aussi pousser les murs.
Qui doivent pousser les murs. Le profil de ces malades graves.
Alors, les plus graves restent quand même les patients les plus âgés, plutôt au-delà de 60 ans, et puis avec un profil un peu équivalent à ce qui a été vu en métropole, des gens souffrant d'hypertension artérielle, de surpoids, beaucoup de patients aussi avec
du diabète déséquilibré, donc des facteurs aggravants, docteur Eppelboin.
Oui, tout à fait.
Bien. Ce qu'on a vécu en métropole, si j'ai bien compris, vous êtes en train de le vivre en Guyane avec un temps de décalage, c'est cela?
Oui, exactement, c'est-à-dire qu'en fait les choses qui ont été vécues en métropole, on le vit avec, c'est ça, nous c'est arrivé mi-juin, en métropole ça a commencé plutôt début mars, mi-mars, les collègues à l'époque nous avaient parlé de cette fameuse vague qui un jour était arrivée chacun dans son hôpital, en particulier dans le Grand Est ou en région parisienne, et on l'a aussi vu arriver cette vague où on a eu quelques prémices là au courant juin, et puis tout d'un coup autour de mi-juin là, en un week-end, des dizaines de patients qui se présentent avec des formes très graves, là où jusqu'à présent on avait quelques formes graves et puis des gens avec des formes pas forcément très inquiétantes. Et puis voilà, donc un peu le même phénomène qui se reproduit. La différence, c'est qu'on était un peu plus préparé, on savait que ça allait arriver, un peu plus au clair aussi sur les traitements à donner. Donc ben voilà, on s'est attaqué à cette vague et puis on essaie de résister tant bien que mal, et le système hospitalier essaie de résister.
Merci docteur Loïc Eppelboin, en direct de Cayenne, médecin infectiologue au centre hospitalier de Cayenne. La situation est sérieuse, sérieuse en Guyane, elle est sérieuse en Amérique du Sud, dans toute l'Amérique du Sud, comme elle est sérieuse en Amérique du Nord également, et nous y reviendrons avec Quentin Vinet. Il est 6h19, merci, vous êtes sur RMC, RMC Découverte le matin, à tout de suite.
RMC, 6h-9h,
Bourdin Direct.
Bien, nous allons prendre Franck, qui est à Plainville, c'est dans l'heure. Bonjour Franck.
Bonjour Jean-Jacques.
Merci, vous êtes éleveur de chevaux, hein,
Franck? Entre autres, je suis éleveur de chevaux. Puis, oui, entre autres, oui, mais je suis éleveur de chevaux, puis je vais avoir un gros souci, parce que ça fait 15 ans, on avait du mal le matin pour les nourrir, à les réveiller dans le bain, dans leur box, et depuis 15 ans, elles se réveillaient par bonne voix, à 6h du matin.
C'est pas vrai.
Et à 6h, elles entendent la radio, la matinale, et elles ont toute la tête sortie, ça tape, parce que c'est l'heure de la gamelle. Le week-end, vous n'êtes pas à l'antenne, je les réveille. Quand vous n'êtes pas à l'antenne, la semaine, je les réveille. Et à chaque fois que vous êtes à l'antenne, elles sortent Et ça, parce que c'est l'heure de la gamelle, je sais pas pourquoi. Il y a une...
Non, c'est pas vrai, c'est, mais c'est extraordinaire.
C'est un truc de fou.
C'est un truc de fou, oui.
Ah oui, oui.
Mais ça, c'est un bel hommage, hein. Franchement, ça me fait plaisir.
Ouais. Donc, elles savent que c'est Jean-Jacques, c'est la matinale, ma femme me dit, tiens, c'est la gamelle. Ce week-end, on les a réveillées. Ce matin, on est parti. On est en train de nourrir. Elles ont la tête sortie, ça tape et puis ça cause et puis voilà.
Combien sont-elles?
Elles sont 12. Elles sont 12, 13, ça dépend. Oui.
12, 13.
Avec les petits poulains qui vont, enfin les yearlings et puis qui vont passer aux ventes de Deauville. Moi, je sais que vous êtes amis avec notre entraîneur aussi, Jean-Claude Rouget.
Oui, tout à fait. Oui, que je salue, Jean-Claude, que j'ai pas vu depuis longtemps. C'est ma faute.
Et t'as pas eu de chance hier dans le Diane. Beaucoup de chance dans le Diane et le Jockey Club.
Ouais.
Et donc c'est chaud. Bah, après ils partent en course quoi. Il y a des bourrages, c'est tout un truc. Mais c'est marrant même les petits poulains. Mais là je vais t'embêter. Ma femme me dit, je sais pas comment on va faire. Tous les matins, on va être obligé de les réveiller. Et on avait mis d'autres choses, d'autres radios, la musique, même le week-end. Le week-end, on
et ça
réveille,
marche pas. Et ça marche pas.
Et ça marche pas. Donc ça marche pas.
Bon ben voilà. Franck, je sais pas comment vous allez faire. Moi,
là, on sait pas.
Bon.
Eh ben, vous nous allez déjà nous manquer à nous.
Bon,
parce
ben
que...
merci Franck, c'est gentil, merci beaucoup.
Non, mais ça fait merci. Moi j'ai 57 ans, ça fait partie de ma vie. Bourdin, c'est ma vie, c'est le cas de dire. Même si je suis pas des fois d'accord avec lui, mais comme disait Coluche, Jean-Jacques, le principal. Oui. On aime ou on n'aime pas, mais le pire dans la vie, c'est le néant. Et vous êtes tout sauf le néant, parce que vous avez une grande gueule, et c'est ça qu'on aime chez vous.
Le néant, j'aimerais pas être le néant, hein, Franck.
Et voilà. Parce que, vous êtes une grande gueule, on vous aime comme ça, vous.
Merci beaucoup, Franck, dans tous les cas.
Allez, merci.
Et merci pour cet hommage. Merci. Et vous les saluez, hein.
Oui.
De ma part.
Il n'y a pas de souci.
Bon, il est 6h25. Merci beaucoup, Franck. Tous les matins, trois histoires et trois images avec Charles Magnin. Nous commençons avec Taïwan. Un aéroport propose de faux voyages en avion.
Mais oui, tous les avions sont cloués au sol pour cause de pandémie et certains sont en manque de voyage. Alors cet aéroport taïwanais leur propose une expérience unique en son genre, Jean-Jacques. Vivre un vol en avion sans décoller. 60 chanceux ont été tirés au sort parmi 7000 candidats. Ce week-end, ils se sont donc rendus à l'aéroport et ont tout fait comme pour de vrai. Ils ont fait la queue pour enregistrer leurs bagages, ils ont passé des contrôles de sécurité, ils ont embarqué un par un. Une fois à bord et bien assis, le personnel leur a montré les consignes de sécurité, tout comme pour un véritable voyage, sauf que l'expérience s'arrête là. L'avion n'a évidemment pas décollé, il est resté cloué au sol. Chaque passager est sagement redescendu avec le sourire et le bonheur d'avoir regoûté pendant quelques instants à la vie d'avant, au parfum du voyage et des encombrements à l'aéroport. Je vous sens moyennement candidat, Jean-Jacques, au faux voyage. Ah oui, mais il y en a qui ça manque de faire la queue à l'aéroport.
En Australie, un chat survit à un lavage en machine.
Oscar est un miraculé. Ce petit chat birman a passé 12 minutes dans l'eau chaude avec de la lessive et surtout le tambour de la machine lancé à pleine vitesse. C'est sa maîtresse Amanda qui raconte qu'elle a entendu d'étranges miaulements en provenance de la salle de bain et a donc découvert les pattes de son chat collées au hublot de la machine qui était en train de tourner. Il faut dire que pour une fois, elle avait laissé son mari s'occuper de la lessive, c'est ce qu'elle explique dans la presse australienne. Il a fallu attendre 2 minutes ensuite pour que le lave-linge se vidange et libère enfin le petit Oscar qui est donc bien vivant. Son vétérinaire assure qu'il se porte même très bien, même s'il n'est pas passé loin d'une fin tragique. Il ne faudrait pas d'ailleurs que cette histoire donne des idées stupides à certains. Alors pour l'anecdote, Amanda assure quand même que son chat est ressorti de la machine avec le poil encore plus doux. On ne sait pas en revanche si elle le surnomme désormais le chat machine. Ça c'est entre
nous. Le chat machine. Le rappeur Kanye West se déclare candidat à l'élection présidentielle américaine.
Annonce faite hier matin sur Twitter. En toute sobriété, nous devons maintenant accomplir la promesse de l'Amérique en ayant confiance en Dieu. Je suis donc candidat à la présidence des États-Unis, écrit Kanye West. Buzz immédiat. Elon Musk, le patron de Tesla, lui apporte son soutien. Mais Kanye West a surtout fait parler de lui pour ses problèmes psychiatriques ces dernières années. Il n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai avec la politique. Ça fait 10 ans qu'il explique qu'il vise la Maison Blanche. Et puis surtout, cette déclaration intervient quelques jours après la sortie de son dernier single et alors qu'un nouvel album est annoncé pour septembre. Bref, tout ça sent bon le buzz. Il va encore faire parler de lui pendant quelques mois.
Évidemment. Il est 6h28. Qu'allons-nous faire, Anaïs ?
D'abord, on va prendre un café.
J'avais inversé.
Pour se réveiller.
Bon, alors le café, allez, 32-16 à touche 5, Quentin Vinet.
Et le mot matin par SMS au 7-32-16.
Et puis, une fois qu'on aura bu notre petit café, on va parler des accents. Parce que depuis vendredi, la France a un Premier ministre qui vient du Sud-Ouest. Et ça s'entend, ça a suscité de nombreuses réactions ce week-end sur les réseaux sociaux. Et on sera avec Michel Feltin-Palas, spécialiste des langues régionales et co-auteur du livre « J'ai un accent ». Et alors, pour en parler.
Il est 6h30 juste, Julien Coudreau est là pour les dernières informations. Julien, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Tout le monde sur le pont, pas de vacances pour les patrons. Un chef d'entreprise sur deux se dit prêt à sacrifier ses congés cet été pour relancer son activité. Pas de vacances non plus pour le nouveau gouvernement. Sa composition sera dévoilée dans la journée avec plusieurs dossiers sensibles au menu, dont celui de la réforme des retraites. Et puis demain, ils seront fixés, même si le suspense est moindre cette année. Publication des résultats du bac demain. La plage, le repos et le bronzage attendront un peu. Les chefs d'entreprise veulent rattraper le temps perdu, quitte à sacrifier leur été. 44% des patrons vont écourter, reporter, voire carrément annuler leur congé pour relancer leur activité impactée par la crise du coronavirus. Résultat d'une étude OpinionWay pour la Fondation MMA des entrepreneurs que nous vous dévoilons ce matin sur RMC. C'est particulièrement vrai chez les commerçants comme Dominique Duclos. Marie Régnier l'a rencontré à Groslay dans le Val d'Oise pour RMC.
La cave de Dominique n'a jamais fermé ses portes pendant le confinement.
Ça nous fait 27,50.
Mais cela n'a pas empêché les ventes de s'effondrer.
Ben, notre chiffre d'affaires a baissé de 60%. On s'est fait du souci, bien sûr, parce que nos échéances vont arriver et tout. Et c'est pas évident. Hein.
Désormais, Dominique et son mari font tout pour relancer l'activité. Pour la première fois depuis 20 ans, ils ont décidé de renoncer à leurs vacances d'été.
On est combatifs, on va se battre, on va être là pour nos clients. Et puis ça rattrapera toujours un petit peu ce qui a été perdu. Il faut être sur le terrain.
Comme Dominique, plus d'un commerçant sur deux va écourter ou annuler ses congés d'été. Un choix qui n'étonne pas Patrick Miliotis, délégué général de la Fondation MMA des entrepreneurs.
Ça se comprend parce que l'entrepreneur, il a un rapport existentiel avec son entreprise. Pendant la pandémie, en fait, il avait plus peur de perdre son entreprise que de contracter le virus. Et puis surtout, prendre peut-être le temps pour réfléchir au redémarrage en septembre.
Une combativité indispensable à la reprise, mais pas suffisante selon la Fondation, qui attend des consommateurs et du gouvernement qu'ils continuent de soutenir les petites entreprises.
Un gouvernement dont la nouvelle équipe sera dévoilée dans la journée. Confirmation de Jean Castex hier soir, le Premier ministre en visite surprise dans un commissariat de Seine-Saint-Denis pour soutenir les forces de l'ordre. L'heure est aux derniers arbitrages, aux dernières vérifications et cela prend du temps car les noms des futurs ministres sont épluchés désormais par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour éviter toute erreur de casting, comme l'explique Jean-Baptiste Souffron, avocat de l'association de lutte contre la corruption Anticor.
Vous avez d'abord une déclaration dite de patrimoine, c'est-à-dire qu'on leur demande ce qu'ils possèdent, des immeubles, des actions éventuellement, etc. Puis vous avez une déclaration dite d'intérêt. Ça, on leur demande où est-ce qu'ils ont travaillé depuis 5 ans. Est-ce qu'ils sont peut-être en situation de conflit d'intérêts avec le futur ministère qui risque d'être le leur. Et puis, il y a une vérification fiscale qui est faite par la Haute Autorité auprès de l'administration fiscale pour obtenir une attestation et être certain que les futurs ministres sont à jour de leurs obligations.
Quelle que soit la nouvelle équipe, ils ne veulent pas en entendre parler. Les partenaires sociaux refusent de reprendre les discussions sur la réforme des retraites que Jean Castex souhaite pourtant régler à court terme, Victor Joannin.
Ils sont unanimes, du MEDEF à la CGT en passant par la CFDT. Personne n'a envie de revenir sur ce dossier inflammable. Ce n'est pas le moment, plaide le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux.
C'est vrai que là, il faut appuyer sur pause pendant quelques mois pour qu'on mette toute notre énergie derrière ce qui compte, c'est-à-dire le sauvegarde de l'outil de production, parce que c'est ça qui compte.
Emmanuel Macron souhaite reprendre les discussions avec les syndicats dès cet été, mais Céline Verzelletti, l'une des responsables de la CGT, menace déjà de jouer la politique de la chaise vide.
Nous ne discuterons pas d'une réforme de régime universel. Ce n'est absolument pas le moment de nous imposer une réforme antisociale.
Les syndicats réfléchissent à envoyer un message commun à l'exécutif, peut-être sous la forme d'une lettre ouverte, une idée soutenue par François Omeril, le numéro 1 de la CFE-CGC, le syndicat des cadres.
Les 8 partenaires sociaux, employeurs comme salariés, pensent la même chose de ce sujet. Je pense que pour le pouvoir, c'est un signal suffisamment fort.
Le futur gouvernement verra donc le jour dans un climat social tendu, d'autant que le maintien de la réforme de l'assurance chômage est un autre point de crispation avec les partenaires sociaux.
Et notez que le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 7h40. La possibilité avait été évoquée et très vite écartée par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Et si le coronavirus circulait finalement dans l'air plus facilement qu'on ne le pense, Anne-Sophie Balbir, c'est ce qu'affirment en tout cas 239 scientifiques de 32 pays dans une lettre ouverte.
Oui, ces chercheurs estiment que le virus peut se diffuser dans l'air uniquement en parallèle. Ce qui ne veut pas dire que le Covid se balade pendant des heures autour de nous, mais qu'il peut bien se transmettre par de toutes petites gouttes. Le risque de contamination serait surtout plus important dans des espaces clos, mal ventilés, avec plusieurs personnes proches les unes des autres pendant longtemps. Les scientifiques demandent à l'OMS de revenir sur ces recommandations, puisque l'Organisation Mondiale de la Santé considère que le virus se transmet surtout par des grosses gouttes quand une personne éternue ou tousse, que ce n'est pas un virus aéroporté, c'est-à-dire transporté par l'air ambiant.
La précision signée Anne-Sophie Balbir, merci. Le coronavirus et ses conséquences, les 740 000 candidats au bac seront fixés sur leur sort demain. Moins de suspense que d'habitude cette année, puisque ce sont les notes de contrôle continu des deux premiers trimestres qui sont prises en compte. De nombreux candidats savent donc déjà à quoi s'attendre. Et certains en profitent pour préparer le rattrapage dans leur lycée, comme à Chennevières-sur-Marne, où s'est rendu Martin Bourdin pour RMC.
Un cours d'économie de 3 heures, seul dans la classe, face à deux professeurs.
C'est quoi les éléments du contrat ?
Difficile d'être à l'aise pour Inès, mais cette candidate au bac pro gestion administration sait que c'est indispensable pour décrocher son diplôme.
J'ai eu des mauvaises notes. Ils sont là, ils m'aident, ils me poussent, ils veulent ma réussite, donc moi je trouve ça cool.
À l'étage supérieur, ils sont 7 à suivre un cours de maths sur les fonctions dérivées.
C'est ça, la dérivée d'un nombre tout seul, c'est toujours zéro.
Pas vraiment la matière préférée de Wassim.
Depuis toute l'année, je n'ai pas travaillé.
Mais ces cours de soutien changent la donne.
C'est un petit groupe. Et je comprends plus vite.
Et les élèves sont aussi plus attentifs, relève le professeur de maths Cyril Tedaldi.
Déjà parce qu'on est très proche de l'échéance, donc ils ont une pression supplémentaire, on est moins nombreux, et là ils écoutent, il y a moins de bavardage.
Dans ce lycée, le proviseur adjoint Sylvain Pays a incité une vingtaine de candidats au bac pro à assister à ses cours 3 heures par jour sur les deux dernières semaines.
Les élèves ignorent une partie de l'évaluation comptant pour l'examen, et donc on a identifié sur une fourchette assez large les élèves qui étaient susceptibles d'être convoqués aux oraux de rattrapage.
Et pour parfaire cette préparation, les professeurs principaux seront là demain au moment des résultats pour accompagner ceux qui iront effectivement au rattrapage.
Voilà, les oraux de rattrapage, ça débute à partir de mercredi. Un mot de sport pour vous dire qu'Antoine Griezmann retrouve le sourire et le chemin du but en difficulté au Barça. Ces derniers temps, le champion du monde a inscrit le 3e but de son équipe lors de la victoire 4-1 des Catalans à Villarreal hier soir. Magnifique but sur une passe décisive de Lionel Messi. Les courses aujourd'hui du côté des Sables d'Olonne, Anaïs.
13h50, le pronostic de la Dream Team RMC. Favori 1, Valzer di Poggio, Outsider 6, Antfasis Turbo.
Merci à vous, merci tous les deux. Vous n'avez pas d'accent, vous. Moi, il revient de temps en temps.
Moi, j'ai un petit accent.
Vous avez un petit accent, vous, de Haute-Marne, Marnais.
Oui.
Hein.
J'ai un problème avec les... Oui. Je suis obligée de me concentrer pour dire oui et pas oui.
Voilà. Oui. Oui. Ah bon, d'accord. Bon. Ah. Bon, vous n'avez pas d'accent, vous n'avez pas d'accent.
Pas vraiment, non. Dans l'Ouest,
non plus.
À trois, on a tendance à dire du Coca-Cola.
D'accord. Bon, quand je me mets en colère, ça revient, l'accent du midi, hein. L'accent du sud, c'est venol. Bien, il est 6h37, on va parler des accents dans un instant avec Michel Feltin-Palas, qui est spécialiste des langues régionales, rédacteur en chef à l'Express et co-auteur d'un livre intitulé J'ai un accent. Et alors, chez Michel Lafont, attendant Monique, qui est à Marseille. Bonjour Monique.
Bonjour Monsieur Bourdin, moi j'ai l'accent. Hein.
Bah, je l'entends Monique, je l'entends et nous l'aimons cet accent du midi, cet accent du sud Monique. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire?
Alors,
ce matin?
Alors Monsieur Bourdin, simplement, oui. Ben, merci pour ce parcours.
Oui.
Un beau parcours avec vous tant d'années.
Oui.
Merci pour tout ce qu'on a pu vivre par votre professionnalisme, parce que vous êtes un excellent journaliste.
Ben,
je vais vous
Monique.
Dire que je vous ai découvert en 2018 avec les Gilets jaunes. J'avais témoigné pour les retraites.
Mmh.
Donc après, j'ai été contactée à plusieurs reprises.
Oui.
Et puis, le 1er janvier 2019, c'est Victor Joannin qui m'a interviewé.
Ah bon?
À la maison, oui, petit parcours avec vous, excellent. Et j'avais fait la matinale du 2 janvier, la reprise de vos vacances de Noël.
Oui.
Et donc ça, on ne peut pas oublier. Et le jour où je vous ai découvert à la télé, il y avait une rubrique de Monsieur Magnien, qui était professeur Magnien
Professeur Magnien, oui, tout c'est à fait. Ça. Oui.
Écoutez, Fou rire, je ne voulais plus lâcher, quoi.
Bon. Et vous regardez la télé ou vous écoutez la radio, Monique?
Maintenant, je regarde la télé.
Maintenant, vous regardez la télé, RMC Découverte, le matin, la chaîne 24, Monique.
Voilà, si on va vous voir de 8h30 à 9h, je crois.
Voilà, tout à fait, oui, non, tout à fait, 8h30, 9h, évidemment, avec l'interview politique
c'est
le matin.
Ça, c'est ça, c'est exactement
ouais,
ça.
C'est
donc, on
essaiera
de rester fidèle si l'équipe reste, mais après, on verra.
Bon, ben, merci beaucoup, Monique, merci vraiment.
Je
vous embrasse, Monique.
Merci, monsieur Bourdin. Bonne journée.
Au revoir, Monique. Il est 6h39. Allez, Michel Feltin-Palas est avec nous dans deux minutes. À tout de suite.
RMC, 6h-9h.
Bourdin direct.
Il est 6h42. J'ai un accent. Et alors, Michel Feltin-Palas, bonjour. Merci donc d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des langues régionales, rédacteur en chef à l'Express, co-auteur avec Jean-Michel Apathy d'un livre intitulé « J'ai un accent et alors ?» chez Michel Lafon. « J'ai un accent et alors ?» Ben Jean Castex a déjà appris à ses dépens qu'il ne fallait pas trop avoir l'accent, l'assam ou l'accent, comme on veut, hein. Il y en a des accents. Bon, accent du Sud, Jean Castex est originaire du Gers. Il était jusqu'ici maire de Prades dans les Pyrénées-Orientales, conseiller départemental. Il a pris la parole vendredi soir, tout le monde s'est rendu compte qu'il avait l'accent, les commentaires sur les réseaux sociaux. Un sacré accent du Sud, un accent chantant, voire terrible. Oh putain, cet accent. C'est chelou un ministre avec un accent du Sud-Ouest. Il a le même accent que Maïté, voilà ce que j'entends. Enfin bon, ici, et ce que nous avons entendu ici ou là. Dites-moi, avoir un accent, c'est un côté péjoratif pour certains. Enfin, est-ce que c'est un marqueur social?
Oui, tout à fait, mais il faut déjà dire une chose, tout le monde a un accent.
Oui.
J'ai un accent, vous avez un accent.
Oui, ben ça je sais.
Édouard Philippe avait un accent.
Édouard Philippe avait un accent.
Bien sûr, l'accent, c'est simplement la manière de parler. Donc, dès qu'on parle, on parle avec un certain accent.
Ouais.
Il se passe qu'en France, l'accent de Paris, plutôt un des accents de Paris, plus exactement l'accent de la bourgeoisie d'Île-de-France, a réussi l'exploit de faire croire qu'elle n'avait pas d'accent. C'est aussi idiot que si moi, qui suis de souche européenne, disons, je disais un noir, toi, t'as une couleur de peau, pas moi. C'est idiot.
Ouais.
Alors, effectivement, parce qu'on est en France, le mépris des accents, c'est à la fois un mépris géographique, le mépris de Paris vis-à-vis des régions, de la province, mais aussi un mépris social, parce que si vous observez ce qui est devenu l'accent standard, ça n'est pas l'accent à la Harletide, atmosphère, parce que ça, c'est l'accent du peuple parisien. Et donc vous apercevez qu'en fait, c'est un enjeu de pouvoir, et que c'est la bourgeoisie d'Île-de-France qui a réussi à imposer sa manière de parler, et à discréditer d'emblée toute personne qui ne parle pas de la même manière. Et le pauvre Jean Castex, simplement parce qu'il ne parle pas avec l'accent traditionnel du pouvoir, a été déconsidéré comme s'il y avait une équivalence entre le mauvais accent, entre guillemets, et l'incompétence.
Est-ce que c'est pénalisant pour certains?
Bien sûr que c'est pénalisant.
J'imagine.
Il y a des tas de métiers.
Même professionnellement.
Et bien sûr. Regardez, nous sommes journalistes, vous et moi.
Bien sûr.
Combien de personnes s'expriment à la télé à des postes très valorisés, présentation de journaux, éditorialistes politiques, sans avoir le bon accent, entre guillemets? La seule exception, c'est Jean-Michel Apathy.
Oui.
C'est pour ça qu'on a fait le livre ensemble. On peut être en désaccord avec ce que dit Jean-Michel Apathy.
Oui,
au moins, il est jugé sur le fond. Et c'est ce qu'il faudrait faire.
Oui.
Toute personne doit être jugée sur ce qu'elle dit et non pas sur la manière dont elle parle. Cette règle simple.
Évidemment.
On ne commande pas la couleur des yeux de Jean Castex. On ne commande pas sa coupe de cheveux. On va le juger sur ce qu'il fait. Mais le fait qu'il ait un accent tout d'un coup,
on l'a tous vécu. Moi, quand je suis arrivé, on l'a tous vécu. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais.
Vous n'avez plus votre accent.
Je l'ai un peu perdu parce que je vis à Paris.
Alors, ça, c'est
mais
autre
dès
chose.
Que je revis dans mes Cévennes, je reprends l'accent. Enfin, je reprends l'accent. Oui, comme quoi, c'est l'environnement qui compte. C'est
l'environnement et la pression sociale.
Et la pression sociale.
Regardez, par exemple, les grands patrons du CAC 40.
Oui.
Regardez les grands intellectuels. Regardez BHL, Michel Onfray, etc. Michel Serres, qui était l'exception. Il avait l'accent d'Agen aussi, lui aussi était gascon.
Oui.
Vous savez ce que disait Michel Serres? Michel Serres disait qu'il avait dû attendre 60 ans avant d'être pris au sérieux. Michel Serres a été rétrogradé du concours de l'irrigation en raison de son accent.
Oui.
C'est terrible. Moi, j'ai recueilli des témoignages pour ce livre. Une jeune femme d'Avignon qui vient pour l'agrégation de lettres classiques.
Oui.
Concours extrêmement difficile. Elle prend la parole, juste pour se présenter. Et vous savez ce que lui dit le président du jury ?
Non.
Tiens, je ne savais pas que Mireille Mathieu prétendait à l'agrégation de lettres classiques.
Ouais.
Vous imaginez ça ? Ouais. Donc vous avez des millions
c'est
de gens.
C'est une discrimination insupportable.
On a fait un sondage pour ce livre.
Oui.
10 millions de personnes en France sont discriminées professionnellement en raison de leur accent, soit au moment des concours, soit dans leur carrière professionnelle. Il y a des pertes de salaire quand vous avez un métier exposé, on va le donner à votre collègue qui a le bon accent entre guillemets. 20 millions de personnes sont moquées quotidiennement dès qu'elles prennent la parole. Vous arrivez dans une réunion, vous êtes un commercial, vous présentez votre projet, tout le monde se marre.
Ouais.
C'est tout à fait anormal. Imaginez que ce soit la même chose parce que vous êtes juif, parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes homosexuel.
Mais on se marre.
C'est une discrimination.
Beaucoup de l'accent du sud-ouest ou du sud-est.
Et du
l'accent
nord,
du sud.
Et de l'est.
Mais aussi du nord, oui, le ch'ti. De l'est aussi.
Et d'accent populaire.
Et l'accent
regardez,
populaire.
Un jeune
oui.
de banlieue, un jeune de Seine-Saint-Denis, d'un quartier ouais. difficile, comme on dit pudiquement, il est parisien, il est francilien, comme vous et moi. Dès qu'il prend la parole dans une réunion, on va dire non, ça n'est pas possible. Les gens ne sont pas jugés sur ce qu'ils disent. Comme ça devrait être le cas, mais sur la manière dont il s'exprime.
Et ça perdure.
Mais ça perdure, bien sûr. Ça se renforce même.
Ça se renforce.
Mais oui, parce que vous avez une sorte d'unité. Toutes les télévisions, tous les gens qui ont des postes à responsabilité, 99% d'entre eux parlent de la même manière. Donc il y a une fausse équivalence
qui
se fait entre eux. Puisque les gens sérieux parlent tous comme ça avec l'accent standard, si on n'a pas l'accent standard, on n'est pas sérieux.
Voilà.
C'est complètement stupide.
C'est la glottophobie. Hein,
ça s'appelle de la glottophobie, c'est le fait de ne pas aimer quelqu'un en
discrimination
raison,
par
quelqu'un
l'accent.
En façon de sa manière dont il parle.
Oui.
Et c'est la même chose que l'homophobie, la xénophobie, c'est pour montrer que c'est le même principe. Vous reprochez à quelqu'un ce qu'il est et non pas ce qu'il fait.
C'est pour ça que c'est
à mon avis, un sujet plus sérieux qu'on ne le croit souvent.
Bien. Et tout de suite, c'est l'accent du sud, l'accent rugby, l'accent rocailleux, l'accent, enfin bon, etc. Tout de suite,
voilà,
on remarque l'accent dans le moindre commentaire. Mais attendez, même les journalistes font ces commentaires-là, les premiers, hein,
bien sûr,
à se moquer de l'accent des autres.
Naturellement. Imaginez que le bon accent, tout d'un coup, soit l'accent alsacien.
Ouais.
Imaginez. Il y a beaucoup de gens ici sur ce plateau et ailleurs en France qui ne pourraient plus faire carrière. Imaginez qu'on vous dise, ah non, vous n'avez pas l'accent alsacien, vous êtes ridicule.
Ouais.
Les gens comprendraient tout d'un coup que c'est tout à fait anormal et que c'est une discrimination qui n'est pas la plus grave, mais ça, elle n'est pas reconnue comme une discrimination.
Je vais vous dire, quand j'ai commencé ce métier, j'étais journaliste sportif et je me souviens très bien dans la rédaction d'RTL, on disait, ah bah oui, tu es journaliste sportif, tu as de l'accent, c'est bien que tu sois au sport, tu pourrais pas faire de la politique.
Exactement.
Ni de la politique étrangère.
Exactement.
Mais sûr, je me souviens de ça. Et même, on m'a collé au rugby. Je n'y connaissais pas grand-chose au rugby, je connaissais beaucoup mieux le football. On m'a collé au rugby parce que j'avais l'accent du Sud.
Oui.
Uniquement pour
ce
ça.
Ce sont des connotations complètement
stupides. Uniquement.
Et
parce que c'était l'image,
voilà.
Uniquement.
C'est la France, très centralisée, et avec une ville qui se sent supérieure aux autres. Et c'est tout à fait normal.
Mais on n'arrive pas à lutter contre cela.
Eh bien, écoutez, je fais un petit livre.
Je ne suis pas sûr
de changer ma situation à moi tout seul.
Oui,
bien sûr, il faut en parler. Je vous remercie beaucoup de cette invitation.
Oui.
Peut-être l'arrivée à Matignon de Jean Castex fera-t-elle évoluer la situation.
Exactement.
Voilà, on a besoin de symboles, mais il faut effectivement qu'on ait une diversité.
Quand je lui en parlerai.
Le jour où les grands journaux de télévisés seront présentés avec l'accent de Marseille, le jour où à la Comédie Française, on pourra avoir quelqu'un qui joue Lorenza Chua avec l'accent corse, Rému jouait Molière. Qui aujourd'hui, avec l'accent provençal, a droit au grand rôle. C'est fini. Donc on a beaucoup régressé. Et j'espère, il faut des symboles à la télévision, au cinéma, chez les grands patrons, chez les intellectuels, pour changer et qu'on juge enfin les gens sur ce qu'ils disent et non pas sur la manière dont ils s'expriment.
Eh bien, merci à Michel Feltin-Palas. J'ai un accent. Et alors, chez Michel Lafon.
Merci
beaucoup. Catherine est avec nous dans le Var. Bonjour Catherine.
Bonjour Jacques.
Bonjour. Ça va Catherine? Vous voulez nous dire un petit bonjour?
Ah super, alors pardonnez-moi, j'ai une extinction de voix.
Ah, ça arrive.
Et je suis bavarde, alors croyez-moi, je suis punie.
C'est vrai. J'imagine,
d'habitude,
Catherine.
Je mets ma langue à sécher quand je vais pour parler, mais là... Bon, je voulais vous dire, Jean-Jacques, là, vous allez illuminer ma journée, hein, vraiment.
Eh ben, merci.
C'est un grand bonheur.
Merci.
Et puis, je voulais vous dire, j'ai 70 ans, j'ai 4 petits-enfants, bon, qui m'appellent la mamie flingueuse, et j'ai le cœur qui bat parce que j'ai osé vous appeler aujourd'hui, et je vous ai à l'antenne. Alors, ça me fait un plaisir fou.
Ben, moi aussi, ça me fait un plaisir fou, Catherine. Moi
alors,
aussi.
Je voulais rajouter vraiment, vous avez une émission extraordinaire.
Merci, Catherine.
Vous rentrez, vous allez vraiment vous ruer dans les brancards pour vraiment des causes prioritaires, mais avec toujours beaucoup de sensibilité, de pédagogie et surtout d'humour. Voilà.
Ben, merci beaucoup, Catherine. Merci.
Je vous adore ainsi que toute votre équipe et je vous souhaite dans quelques temps la retraite la meilleure possible.
Ouais, je ne suis pas à la retraite, Catherine, parce qu'à la rentrée, je vais continuer à présenter cette interview politique et à réaliser cette interview politique qui est importante, d'autant plus que la présidentielle approche.
Oh bah écoutez, je suis bien d'accord avec vous. Hein.
Voilà, il va falloir poser les bonnes questions. Merci beaucoup. Merci Catherine.
Et ne rien lâcher. Je me permets de vous embrasser.
Ben moi aussi, je vous embrasse, Catherine. Moi aussi.
Merci de m'avoir eu à l'antenne.
Merci, Catherine.
Bonne journée. À bientôt.
Bonne journée.
Au revoir, Jean-Jacques.
Au revoir, Catherine. Il est 6h52.
On va aller à la plage pour parler sport aquatique avec Anthony Morel. On connaissait le surf normal. Anthony Morel fait tout mieux que les autres, il a mieux. Le surf volant, vous saurez tout, des nouveaux sports aquatiques qui vont cartonner cet été. C'est avec Anthony Morel dans un instant.
RMC, c'est déjà demain.
Allez Anthony Morel. Oui, c'est la musique, écoutez, avec Anthony qui entre en musique sur scène.
Évidemment.
Avec quoi? Avec un mini scooter sous-marin.
Mais oui, c'est ça. Un petit appareil qui va cartonner sur les plages cet été, qui va permettre à n'importe quel nageur du dimanche, comme moi, comme vous peut-être, je sais pas, enfin en tout cas comme moi, de se transformer en quasiment en super-héros sous-marin, en Aquaman. C'est-à-dire que vous le mettez comme ça devant vous et vous allez être tracté comme une torpille. Ça ressemble à un gros drone, on va le dire comme ça. Vous avez deux hélices, une de chaque côté, des poignées, deux boutons, vous appuyez dessus et on va vous tirer, vous propulser sous l'eau.
Je vois les images silencieux. Sous l'eau, faut être équipé quand même, non?
Vous
masque au moins, un tuba.
Vous pouvez le faire. Vous pouvez l'utiliser pour faire du snorkeling, vous savez, donc de la plongée, du snorkeling, c'est avec un masque de plongée, un tuba.
Vous restez en surface.
Mais vous restez en surface. Ou alors, vous pouvez le faire un peu plus profondément. Les plongeurs, par exemple, peuvent descendre jusqu'à 40 mètres avec un appareil comme celui-ci. Puis on peut ajouter une petite caméra à l'avant pour filmer ses exploits sous-marins. Donc voilà, c'est les appareils. Alors on appelle ça des mini-scooters ou des mini-propulseurs sous-marins. On trouvait ça, c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas ce que j'ai pas dit yacht, mais à l'arrière des yachts à une époque, et maintenant en fait ça devient grand public. C'est au CES de Las Vegas que je l'avais repéré celui-ci, et c'est le plus petit, le plus léger du monde. Ça pèse 3 kilos, donc ça tient dans une valise, dans un sac sans aucun problème.
Pour aller à la plage, il faut 14 sacs aujourd'hui.
Écoutez, c'est l'équipement.
Faut tout trimballer.
Si vous voulez, parce que ça coûte un petit peu cher aussi, ça coûte autour de 800 euros. Mais en fait, c'est le genre de.
Faut faire 3 allers-retours.
Non, mais on va louer ça, par exemple, sur une base nautique à l'heure ou à l'après-midi. C'est pas forcément pour l'acheter.
D'accord. Autre tendance.
Ça s'appelle le White Shark, le requin blanc.
Le requin blanc.
Ouais, le requin
blanc. On trouve ça en France. Hein.
On le trouve.
C'est distribué par une entreprise de Fréjus.
Oui, c'est ça. Je crois que c'est du côté de Fréjus qu'ils sont basés.
Autre tendance qu'on voit émerger depuis quelques étés, le surf volant.
Ah oui, alors ça, moi, j'aime beaucoup ce qu'on appelle les e-foils. Vous savez, les foils, c'est ces ailerons sous-marins qu'on utilise pour les bateaux de compétition et notamment et qui donnent l'impression qu'ils volent au-dessus des flots. Et bien là, c'est exactement la même chose, mais avec un surf. Donc vous avez une aile sous-marine. On se retrouve avec un peu l'overboard de Marty McFly dans Retour vers le futur, le surf volant qui a fait rêver tous les gamins à l'époque. Donc en gros, le surfeur a une petite télécommande dans la main, il appuie sur un bouton et il va se surélever à quelques dizaines de centimètres au-dessus de l'eau. Et donc là, vous avez l'impression de voler en fait. Ça donne des sensations absolument incroyables. Et ça permet de surfer, alors je mets des guillemets à surfer parce que les puristes diront c'est pas du vrai surf, mais de surfer sur une eau où il n'y a pas de vagues, sur un étang ou sur un lac par exemple, c'est pas exactement la même discipline en réalité, mais c'est un sport aquatique qui commence à prendre son envol, si on peut dire.
Vous avez aussi une planche particulière, un jet ski volant.
Alors le jet ski, oui absolument, et alors je voulais en parler parce que c'est Franck
Zapata. Quand je vous disais qu'il fallait 3 remorques pour
c'est vrai qu'il faut
Anthony Morel.
Faut un semi-remorque quasiment pour partir en vacances. C'est Franck Zapata dont on a beaucoup beaucoup parlé pour sa planche volante, vous savez, bah, il a aussi mis au point un jet ski. Donc là, pour le coup, vous êtes assis, c'est quand même un petit peu plus confortable, et vous êtes hydropropulsé par un tuyau à l'arrière du jet ski. Ah, mais c'est génial, là, pour le coup,
si
le
terme tombez, de... là,
ah, bah, si vous tombez, vous tombez dans l'eau, c'est pas très très grave.
Le jet ski, il a quand même un certain poids, non?
Oui. Oui, non, mais bon, ça va, ça faut apprendre, mais de toute façon, tous ces appareils.
Tomber 10 mètres d'eau,
là. Mais arrêtez, vous n'ayez pas peur, là, faites pas vos
natures. Justement.
Oh là, vous êtes incroyable. Vous tombez dans l'eau, c'est pas très grave.
Non, ça va.
Non, mais il faut se former, évidemment, faut apprendre un petit peu à utiliser tous ces appareils. Donc faut se former à tomber. Bah oui, faut se former à tomber, évidemment. Non, mais vous imaginez les sensations là quand vous sautez, vous êtes à 3 mètres au-dessus de l'eau à faire des figures là, vous prenez pour un dauphin quoi, c'est incroyable.
Ouais. Non, mais oui.
Le fly ride ça s'appelle.
Et je te laisse y aller avant moi, d'accord?
50 000 euros.
Je te montrerai. Mais non, arrêtez.
Pardon, mais non,
oh là là, c'est incroyable.
Bon,
6 000 euros seulement.
Seulement.
Michel et Morel, tout va bien.
Les vacances avec Anthony Morel.
Mais vous les louez, vous les achetez pas.
Merci Anthony. Aline. Aline.
Oui, je suis là.
Ah, vous êtes là. Montigny-les-Cormeilles, c'est dans le Val-d'Oise. Aline, vous êtes auditrice ou téléspectatrice le matin?
Les deux.
Les deux. La radio,
quand
la
j'emmène
télé.
Mon compagnon, je vous écoute à la radio et quand je rentre, je mets la télé.
Bon. Ben Aline, heureux de vous savoir là. Vous avez gagné votre machine à café et les capsules qui vont avec, ma chère Aline.
Merci beaucoup.
Et on vous embrasse. Passez une belle journée. Merci beaucoup, Aline. Merci, au revoir.